Avant de plonger dans votre prochain épisode de Course Épique, je voulais vous parler de l'Odyssée ASPTT, le podcast qui retrace une épopée sportive de 125 ans. Le mouvement ASPTT propose une multitude d'activités sportives pour tout niveau, du débutant au confirmé, dans toute la France. J'ai particulièrement aimé dans ce podcast l'alternance entre les anecdotes historiques sur de nombreuses disciplines sportives et les témoignages en immersion des adhérents de l'association. C'est à la fois rythmé, vivant et instructif. Avec ce podcast, vous allez vous plonger dans l'odyssée de cette association, véritable pionnière dans la démocratisation du sport en France. Et puis les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT mettent en lumière ce qu'il y a de plus essentiel dans le sport selon moi. Les notions d'égalité, de solidarité, d'inclusion et d'accessibilité. Et dont la course à pied est d'ailleurs une très belle expression, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Faites comme moi, courez découvrir les 4 épisodes de l'Odyssée ASPTT sur votre plateforme d'écoute favorite. Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. À quel moment t'as pris conscience de tes qualités? Tu t'es dit que là, tu pouvais aller chercher du haut niveau. Est-ce qu'il y a un déclic, un moment? Ou est-ce que c'est une construction, une progressivité dans la performance?
C'est un peu... Tu vois, c'est quand j'étais à l'école primaire, j'ai déjà gagné le cross, le machin.
Il y avait des indices.
Voilà. Je savais que j'étais fort en course à pied. J'aimais bien courir. Après, j'ai jamais eu de grands rêves, je me suis jamais mis de limite non plus. Moi, les premières images de ce que je me souviens du trail, quand j'ai découvert le trail, c'était des championnats du monde en Espagne ou au Portugal. Je regardais l'équipe de France sur live dans ma chambre à Paris. Et je me suis dit que j'avais envie de faire pareil. Et j'étais... Enfin, au fond de moi, je me disais, c'est en fait, ça devrait être réalisable. Mais je savais même pas si j'étais capable de courir 60 bornes. Hein. Mais je me disais, c'était pas un rêve non plus, mais je me disais, bah, ça doit être réalisable, avec du boulot, etc. Et du coup, je me suis lancé un peu dans cette aventure-là. Mais derrière, je me suis toujours dit, bah, ça doit être faisable. En fait, petit à petit, je pense que tout est faisable pour à peu près chacun d'entre... Enfin, tout le monde est capable de faire des grandes choses, mais il faut juste trouver un objectif réalisable et y aller petit à petit et prendre son temps. Et voilà, donc c'est... Il n'y a pas eu de déclic, les choses se font tout doucement.
Je voudrais qu'on vienne sur une course qui a été particulière pour toi. C'est pas forcément peut-être la plus emblématique ou les performances les plus exposées, mais c'est, je t'ai entendu parler de ta 6e place au Trail de la Drôme en 2019. Est-ce que cette course, elle a un sens particulier pour toi? Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelle raison?
Bon, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de déclic, mais c'est vrai que cette course, elle a marqué ma vie de sportif. J'ai commencé le sport sans coach, la trail sans coach. Je faisais un peu à la passion. Et quand tu fais à la passion, souvent, t'en fais trop. Donc, je me suis blessé après 3 années de pratique du trail, alors que j'avais une volonté de faire du haut niveau. Je me suis blessé, je me suis fait une fracture de fatigue à la hanche et ça a mis près de 9 mois. J'ai mis près de 9 mois à recourir, à avoir des bonnes sensations. Et à ce moment-là, c'est là où ça a été pour moi, dans ma vie de sportif, le moment le plus dur. C'est le moment où tu te poses des questions parce que ce que tu fais, ce que tu aimes faire, t'a blessé, te fait souffrir. Et donc, ce que tu aimes faire, eh ben, ça te procure plus de... Et t'es malheureux, quoi. Et t'es malheureux parce que t'as fait trop ce que tu aimais faire. Enfin, t'es allé tellement au bout des choses, au bout de ta passion, que tu en es devenu malheureux. Ça devient destructeur. Mmh. Et du coup, pendant cette période de blessure, j'avais pas encore fait beaucoup de... Enfin, j'avais fait du trail, j'avais fait des belles places sur des courses et tout. Et je me suis même demandé si j'avais pas arrêté le trail. Parce que ça me rendait trop malheureux d'être blessé.
Tu es déjà venu et tu as déjà brillé ici 3 années, hein, en 2020, 2021, 2022. Quel lien tu entretiens avec cette course? Est-ce que tu as un affect particulier avec elle? Ou est-ce que c'est elle se place bien dans la saison à chaque fois? C'est une bonne façon d'amorcer, de se tester un peu, voir où on en est.
C'est une course qui est importante. Pour moi, c'est la course qui initie le début de saison de trail en France. En tout cas, le trail haut niveau élite. C'est la course sur laquelle se rejoignent les coureurs les plus investis depuis de très nombreuses années. C'est aussi une course que j'ai découvert bien avant que je sois performant et où j'ai vu des grands noms briller. Du coup, elle m'a vraiment attiré dès le départ. Et ensuite, c'est une course sur laquelle j'ai eu que des bonnes expériences. Alors, c'est vrai que revenir courir à un endroit où t'as eu que des bonnes émotions et que des bonnes sensations, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est associé qu'à des bons souvenirs.
Est-ce que là, je te trouve dans des bonnes dispositions? Comment s'est passé ton hiver? Là, tu as été notamment un peu sur le terrain du cross avec un titre de champion des Alpes. Est-ce que tu as le sentiment là, d'arriver dans des dispositions qui sont quasi optimales avec donc à la fois le Ventoux et puis en ligne de mire le trail de la Drôme là, le 7 avril?
Ouais, ma saison s'est arrêtée à la Saint-Élion l'année dernière en décembre. Et puis après, j'ai pris trois semaines
sur une belle victoire. Ouais. Pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas.
Sur trois semaines de coupure. Et puis j'ai repris tranquillement fin décembre, début janvier pour en effet préparer un premier cross. Ça s'est bien passé. Et puis là, j'en ai pas trop fait. J'ai fait comme il faut, régulièrement, comme d'habitude.
Tu croises ou pas? Avec d'autres disciplines?
Ouais, un peu le vélo, un peu le ski de fond. Voilà, ça dépend.
Raisonnablement?
Très raisonnablement, à raison d'une ou deux fois par semaine. Après, je fais tous mes déplacements quotidiens en vélo, donc moi, je considère que c'est de l'entraînement croisé, finalement. Mais du coup, oui, le début de saison s'est bien passé, et puis je suis dans des bonnes dispositions aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper. Vraiment, l'enjeu de la course de demain, c'est de ne pas se tromper d'objectif, parce que voilà, il faut pas griller des cartouches qui seront importantes dans un mois au France de Trail. Donc demain, ça va être une course il va falloir être dans une course de la sagesse plus qu'une course de la passion, parce que voilà, ça sert à rien d'y laisser des plumes.
Tu sais faire ça? Être sur la retenue un petit peu et pas envoyer complètement c'est difficile, c'est contre nature.
Je pense que on verra demain, mais le problème c'est que quand tu es devant, même si t'es pas en tête, quand t'es devant en tête, c'est dur de pas lâcher les chevaux parce qu'il y a l'euphorie. Quand t'es derrière, c'est dur de pas accélérer parce que c'est le jeu, quoi.
Il faut gagner.
Mais non, je compte sur les conditions météo compliquées pour que la course soit pas trop rapide. Et puis non, mais il va falloir être attentif et surtout pas se blesser en fait. C'est être très concentré, pas faire de chute, bien manger, bien boire, et pas pour qu'il y ait le moins de traces possible lundi après la course, pouvoir reprendre l'entraînement rapidement et sans qu'il y ait de bobos, quoi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.